France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Ouais. Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non!
Darling, I adore your work. I just adore your work. I adore it.
Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et si un jour les glaciers n'existaient plus que dans les musées? On irait alors à Orsay pour contempler cette géométrie cassante de blocs si blancs qu'ils font une ombre bleue sur la mer. Et voyez comment à l'horizon, la banquise prend la teinte profonde de l'outre-mer. Le peintre et explorateur russe Alexandre Borisov voulait en 1906 voler les secrets du monde polaire au moment où se comblaient les derniers blancs des cartes de la Terre. Mais si vous ne voulez pas attendre la fonte des calottes glaciaires pour aller voir dès à présent les glaciers mers de Kara, c'est au musée naval de Brest qu'il vous faudra aller puisqu'une quarantaine de tableaux des collections d'Orsay se font actuellement les messagers de nos hantises écologiques dans l'opération 100 œuvres qui raconte le climat. Alors accompagnons-les dans leurs déplacements et allons voir autrement ces paysages, ces rivières, ces forêts, ces villes embrumées qui composent le musée imaginaire de la mémoire d'un monde déjà disparu et la promesse d'un avenir encore possible. L'art vaut plus que la vie, proclament les activistes écologistes qui attaquent les tournesols de Van Gogh à coups de soupe à la tomate. Sans doute, mais comment rendre compte de cette écologie du musée où les œuvres vivent de leur vie propre? Avec Servane Dargny de Vitry et Grégory Quenet, très très vite rejoints par notre sociétaire du jour Pierre Saint-Gravelou, aventurons-nous sur la banquise, sur les traces de Naïman Gitsok.
Le trou commence ici. C'est que de la neige. Le fossé est immense. On ne peut pas passer. C'est vraiment impossible de traverser. C'est franchement large. Ça doit faire 4 mètres. Pour rejoindre Kanak, on va devoir passer par le rivage. On trouve ce genre de faille dans la banquise parce qu'il fait de plus en plus chaud. Et le trou continue de s'élargir.
C'est un extrait du 5e épisode de La lutte des glaces, France 2, 2023. Servane Dargny de Vitry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservatrice en chef du patrimoine au musée d'Orsay, spécialiste de la peinture de paysages au 19e siècle, mais aussi des rapports entre art et politique. Vous êtes commissaire du projet 100 œuvres qui racontent le climat, qui a donné lieu à un beau livre que vous dirigez, dont on va parler. On peut lire des articles de climatologues, notamment comme Jean Jouzel et Valérie Masson-Delmotte, mais aussi une opération territoriale où les tableaux se font, je l'ai dit, les ambassadeurs de la prise de conscience du changement climatique. Concrètement, parmi ces 100 œuvres, 49 ont été prêtées dans 31 musées répartis dans 12 régions françaises. C'était ça peut-être d'abord le projet, ces prêts et cette circulation des œuvres, cette écologie d'un musée global, en fait.
Oui, le livre ne reflète pas exactement l'opération parce qu'il a été publié au moment du départ
c'est
de
ça.
L'opération. Donc effectivement, pour découvrir la variété de cette opération, il faudrait visiter les 31 musées et donc faire un petit voyage
Bon, enfin, on va le faire en tout cas en esprit. Bonjour Grégory Quenet.
Bonjour Valérie Boucheron.
Vous êtes professeur d'histoire environnementale à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Vous avez publié des livres pionniers sur les tremblements de terre au XVIIe-XVIIIe siècle. Versailles, une histoire naturelle, paru à la Découverte en 2015. Qu'est-ce que l'histoire environnementale chez Champvallon l'année précédente? Et votre dernier livre, paru l'année dernière chez Macula, porte le titre « L'écologie au musée, un après-midi au Louvre ». Sa dernière phrase, « S'il y a une rédemption écologique possible pour les naturalistes que nous sommes, elle ne pourra faire l'économie du musée ». Et vous le dites dans ce livre, c'est l'extérieur du musée qui rentre à l'intérieur. Et au fond, cette écologie dont on parle, c'est aussi l'histoire environnementale des œuvres dans leur matérialité.
Oui, est-ce qu'on peut hériter de la modernité dans sa dimension anthropocénique, fossile, extractiviste? Et cette question-là, elle se joue dans des lieux comme le musée, ce qui peut sembler très étonnant, puisque les musées, a priori, sont plutôt les mauvais élèves de tout cela.
Oui.
Mais justement, il nous oblige à hériter, à assumer ce qui a été fait, et à le mettre en mouvement et à chercher des potentialités de transformation qui créent de nouveaux types de circulation des œuvres, de nouvelles muséographies, de nouvelles expositions et de nouvelles interprétations.
Alors la mise en mouvement des œuvres, justement, commençons par celle qui nous arrête. Commençons par la décrire. Qu'est-ce qu'on voit
Alors, les glaciers en mer de Kara de Borisov, d'abord, c'est un tableau de dimension moyenne, pas un très vaste paysage, mais voilà, des dimensions de 79 par 124 cm, pour être précise. Et on voit de l'eau glacée, d'abord, de l'eau gelée, un paysage vide d'hommes, c'est la première chose qui frappe. Avec au fond, en fait, de cette vaste étendue gelée des glaciers, avec ce bleu cobalt ou indigo presque électrique, qui, en fait, ça, ce sont des glaciers. Sur la droite, on a une partie de banquise avec un blanc assez lumineux et qui se reflète dans l'eau très sombre. Et puis, vous avez dans toute la partie gauche et au premier plan, des bouts de banquise, des blocs de glace disloqués qui ont l'air de peut-être dériver. Tout ça sous un ciel très très sombre. Et alors, ce qui frappe aussi, c'est que c'est un ciel qui a l'air d'être peint d'un seul geste.
Oui.
Le pinceau traverse la toile d'un seul gris très sombre qui se reflète dans l'eau également sombre.
Dans les livres que vous dirigez, je l'ai dit, des climatologues, et parmi elles, Valérie Masson-Delmotte interviennent. Elle écrit « À droite, je pense que c'est de la banquise et au premier plan, ce sont peut-être des parties de glaciers qui se sont disloquées et qui flottent dans la mer. » Il y a donc déjà, au fond, un paysage en mouvement. C'est comme ça que vous le voyez aussi, hein, Grégory Quenet. C'est déjà de l'histoire, en somme, même si elle paraît immobilisée, figée, glacée.
C'est déjà de l'histoire. Et du coup, on se demande ce qui est représenté. C'est une étendue en mouvement à conquérir, à explorer.
C'est un explorateur. Hein,
c'est un explorateur, tout à fait. Oui. Donc c'est très différent d'un paysage qui serait quelque chose de stabilisé à l'arrière-plan. Effectivement, on sent que quelque chose s'ouvre. Qu'est-ce qui s'ouvre? C'est toute la question. Et ça pose des difficultés d'interprétation.
Qu'est-ce qu'on sait justement de l'histoire du... Parce qu'il n'y a pas beaucoup, en fait, d'œuvres de ce peintre russe.
Alors,
dans les collections françaises.
Oui, c'est le seul en France. Il l'a donné, d'ailleurs, à l'État français en 1907. Et en fait, il avait fait une expédition. Donc, c'est effectivement un explorateur. En 1896, il rapporte beaucoup de relevés de dessins, d'esquisses et de petites toiles qu'il va exposer à Saint-Pétersbourg. Et d'ailleurs, Tretiakov va lui acheter l'ensemble. Donc, c'est sa première notoriété de l'artiste. Mais en 1900, il va repartir en fait dans cette mer de Kara pour explorer et cartographier l'archipel de la Nouvelle-Zemble. Et en fait, il va être le chef de cette expédition et son navire va se retrouver coincé dans les glaces, ce qui est assez courant à l'époque et d'ailleurs encore aujourd'hui, ça peut être un problème. Et en fait, l'équipage va se retrouver à marcher des jours sur la banquise par moins 40 degrés. Et il va retirer de cette expérience d'abord peut-être cette impression très très dure qu'on retrouve dans le tableau qu'il réalise 5 ans plus tard, donc un peu comme un souvenir aussi de cet épisode dramatique où il a vraiment failli perdre la vie et la vie de tout son équipage avec lui, de toutes ses équipes. Et par ailleurs, l'autre aspect intéressant, c'est qu'il est recueilli par le peuple autochtone et nomade qui s'appelle les Nénets. Il va vraiment devenir ami avec avec ces Nénets et être accepté d'une certaine manière dans leur voilà, même découvrir certains rites, certaines choses un peu secrètes. Et en fait, ces blocs qui sont en mouvement, je pense que c'est peut-être aussi voilà, ça rappelle ce navire coincé dans les glaces. Et voilà, cette impression peut-être aussi...
Donc cette histoire naturelle n'est pas tout à fait vide d'hommes. Écoutez, d'ailleurs, ce qui se passe dans le studio, je vais vous le dire, normalement, les sociétaires, ils attendent patiemment derrière la vitre, mais là, Pierre Saint-Gravelou était surexcité, donc on s'est dit, ok, très bien, on va le faire intervenir directement.
Surexcité, le mot est fort,
mais... parce que, alors, il faut dire aussi que vous êtes, on ne vous présente plus à cette antenne, mais vous êtes aussi l'auteur des Mondes d'Orsay, donc ça vous intéresse directement. Qu'est-ce que vous voyez, en fait, vous, justement, sur le rapport entre histoire naturelle et histoire humaine?
Oui, mais ça a été dit, ce qui me frappe, c'est l'absence des animaux et des êtres humains, et en cela, le tableau de Borisov est une illustration sublime d'une forme d'orientalisme appliquée précisément au Grand Nord, et qu'on appelle, alors qu'on peut appeler le boréalisme, le septentrionisme ou l'articisme, et qui est représenté ici par la figure de l'iceberg et de la banquise, qui doivent symboliser l'idée même de terra nullius, c'est-à-dire le territoire qui n'appartient à personne et qu'on peut s'approprier, alors qu'il s'agit de territoires anthropisés. Il existe un écoumène. On oublie bien souvent qu'aujourd'hui, ces régions polaires sont habitées par plus de 4 millions de personnes qui produisent elles-mêmes des représentations sur ces territoires.
Ça, on va en parler tout à l'heure.
Et donc, il y a là une manière de magnifier le vide et l'inoccupation qui possède une dimension politique, puisque on peut dire que ce territoire est représenté depuis la seconde moitié du 19e siècle comme par définition apolitique, c'est-à-dire c'est un territoire où on ne peut pas poser de fondation car on ne peut pas creuser dans la glace et développer quelque chose. Donc c'est un territoire qui suscite à la fois fascination et répulsion, mais un territoire qui est réputé impossible à véritablement développer.
Bah écoutez, justement, ce reportage était en 1947 sur la Terre Adélie.
Au cours de son voyage d'exploration dans l'hémisphère austral, le navigateur français Dumont d'Urville apercevait le 21 juin 1840 un continent encore inconnu, l'Antarctique. En hissant le pavillon national en un point de cette étendue glacée, grande comme les États-Unis et l'Europe, il donna à la France une terre nouvelle qu'il appela Adélie, du nom de sa femme. En 1948, le gouvernement français confiait à Paul-Émile Victor la mission d'organiser une expédition polaire dans le but d'occuper et d'explorer la terre Adélie. Le 21 janvier 1950, le navire polaire commandant Charcot, armé par la marine nationale, déposait une équipe de 11 chercheurs et techniciens sur un promontoire rocheux qui fut appelé Port Martin, en souvenir d'un des membres de l'expédition décédé à bord du bateau au large des côtes d'Afrique.
Oui, désert de glace, il y a d'autres déserts. D'ailleurs, Grégory connaît dans cette exposition, virtuelle, ce qui pose la question effectivement de l'étendue géographique et de l'intensité de l'occupation humaine, c'est-à-dire au fond de l'histoire environnementale.
Ouais. L'exposition comporte deux tableaux de désert, hein, Guillaume et Fromentin, qui représentent le Sahara comme le pays de la soif. Et l'écho avec ce tableau-ci, c'est que on voit très bien comment on est passé des processus tels que représentés au XVIIIe siècle dans l'histoire et la théorie de la Terre, qui étaient des questions de verticalité, l'érosion, la cascade, le cours d'eau, à un monde qui est où la question est plutôt l'étendue, une étendue qui s'étire et dont justement il s'agit à la fois de prendre possession et de décrire. C'est donc des processus de représentation qui ont une dimension politique absolument évidente, et ces deux tableaux qui sont au musée d'Orsay ont été commentés par l'historienne américaine Diana Davis dans son livre « Les mythes environnementaux de la colonisation française en Afrique du Nord », et elle a montré très précisément qu'ils étaient liés au lobby colonial qui, dans les années 1860, modifie la représentation du Sahara comme une végétation totalement dégradée, le pays de la soif, alors même que dans les années 1830, il y a des représentations plus contrastées, celles d'une végétation méditerranéenne, disons semi-désertique, qui permettent des formes d'occupation humaine. Et bien évidemment, c'est quelque chose qu'elle démontre magnifiquement, c'est quelque chose qui légitime une emprise coloniale à la fois de reboisement, même si ces endroits-là n'ont jamais été reboisés. C'est l'origine de la barrière verte du Sahara, hein, qui est un lieu commun de toutes les organisations internationales, sans savoir d'où elle vient malheureusement. Et puis, un procédé, des procédés de criminalisation d'usage locaux de ces espaces-là.
Oui, ça, ce sont des exemples que vous développez aussi dans votre livre « L'écologie au musée », avec une ancienneté qu'on n'imagine pas, puisque ça commence justement avec les cèdres du Liban, hein, c'est-à-dire les bas-reliefs assyriens des collections du Louvre.
Oui, la plus vieille représentation figurée d'une atteinte à l'environnement, où on voit une série de personnages qui coupent des arbres, on ne les voit pas couper, disons, qui sont devant des arbres qui ont été coupés, qui sont prêts à les transporter. Et on est dans ce monde assyrien où déjà le souverain, pour des raisons idéologiques, met en scène son pouvoir sur la nature, que sans doute il n'exerce pas réellement parce qu'il n'a aucune capacité à aller chercher des cèdres au Liban, encore moins à les transporter, etc. Mais c'est un bas-relief qui est sur le trajet des ambassadeurs qui viennent payer leur tribut. Et il y a cette idéologie d'État qui s'exprime par l'emprise sur l'espace.
Ambassadeur, je disais justement que les tableaux l'étaient dans les différents musées auxquels ils sont prêtés. Servan Dargny de Vitry, racontez-nous un petit peu comment s'est fait le choix, comment vous avez composé le casting à partir des réserves d'Orsay.
Alors, un peu d'abord de manière empirique avec ce qui était disponible, parce que on a des œuvres qui tout de même voyagent et sont beaucoup sollicitées. Et en fait, cette œuvre, par exemple, de Borisov était exposée à ce moment-là. Et on a fait un peu le tour des collections. L'important pour nous, c'était de ne pas présenter que des tableaux, de montrer aussi la pluridisciplinarité de nos collections. Voilà, de s'interroger sur des vases aussi bien que sur une sculpture d'un ours blanc, sur des dessins, des pastels, de la peinture. C'est voilà, on ne dit pas à chaque fois la même chose, mais surtout ce qui est frappant en fait avec nos collections, et c'est là que mon propos il est très situé, il vient vraiment de l'institution qu'est le musée d'Orsay et de ses collections qui datent très précisément de entre 1848 et 1914. Et donc on est dans un moment très précis avec des collections qui ne concernent vraiment que cette période-là. Et à partir de là, on s'est demandé un peu ce qu'elle disait. Et en fait, ça, d'une certaine manière, si je peux le dire comme ça, ça part dans tous les sens.
Oui.
Il y a des œuvres qu'on va solliciter parce que elles vont parler peut-être de facteurs ou de l'anthropocène, ou alors des œuvres qu'on va regarder en tant que archives, effectivement, d'un climat qui a pu disparaître ou d'une situation qui n'est plus aujourd'hui, ou alors des œuvres qui vont aborder le sujet de la biodiversité. Certaines œuvres, en fait, quand on revient à l'artiste, on remarque que c'est des artistes qui ont été eux-mêmes engagés. Par exemple, évidemment, on pense à Théodore Rousseau.
Ça,
mais parfois,
oui,
c'est des artistes qui n'étaient pas du tout, qui ont d'une certaine manière un petit peu rien à voir avec la question du climat, mais qu'on va nous regarder autrement. On s'est aussi autorisé à faire ça. Et donc, d'une certaine manière, ce livre, c'est un premier jalon très rapide d'une certaine manière, mais où on avait à cœur d'inviter des experts du climat, des climatologues d'aujourd'hui, pour regarder nos œuvres, pas les regarder avec un regard forcément d'historien de l'art, ça c'est aussi notre rôle, mais en tout cas avec leur spécialité à eux.
Oui, Pierre Saint-Garavelou, d'une certaine manière, c'est une promesse, c'est une invitation, on peut poursuivre ce geste, vous l'aviez fait déjà dans ce livre, je le rappelle, Les Mondes d'Orsay. Évidemment, l'art représente, mais il est fait, il est façonné, et dans la matérialité des œuvres même, il y a aussi le monde et son environnement qui s'expriment.
Oui, alors d'abord, je dois dire que c'est une très belle initiative et qui qui permet ce dialogue très fécond avec les chercheurs. Et je trouve que cette démarche de travailler avec les musées en région, et notamment des musées de petites villes comme Lunel et Le Canet, est vraiment cruciale aujourd'hui. Et je pense qu'on pourrait, dans un second temps, la prolonger en l'élargissant notamment à la France ultramarine, et notamment aux nombreux musées des départements et territoires d'outre-mer, d'autant que c'est en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Polynésie. Ce sont des établissements culturels qui sont trop souvent exclus des initiatives nationales, qui ont trop rarement bénéficié de prêts de la part des musées nationaux hexagonaux. Et cela aurait d'autant plus de sens que les historiens ont montré depuis longtemps que ce sont dans les îles tropicales, et notamment ces îles de la France tropicale, que sont apparues parmi les premières préoccupations environnementales au XVIIIe siècle. Je pense au travail de Richard Grove sur l'impérialisme vert, notamment. Et donc, ça aurait évidemment beaucoup de sens de, dans un second temps, d'associer ces territoires.
Vous travaillez sur les Seychelles en ce moment, Grégory Canet.
Oui, c'est... En fait, c'est la même question de celle de rédemption. C'est-à-dire que, de même que les musées reviennent sur leur histoire, eh bien, nous, comme historiens, on revient sur cette histoire qu'on croyait connaître, sur des archives, sur des sources, en posant des questions tout à fait nouvelles. Et au lieu d'avoir des réponses évidentes, eh bien, ça ouvre un océan de questions. Par exemple, les Seychelles, eh bien, on s'attend à trouver des îles paradisiaques, ce qui est dans toutes les cartes postales aujourd'hui. Eh bien, quand on travaille dans les archives, ce sont des îles absolument infernales, l'endroit où il ne faut surtout pas aller. Ça pose plein de difficultés. Et d'ailleurs, si les Français n'avaient pas perdu contre les Anglais, jamais ils n'auraient eu cette idée saugrenue de mettre la main sur cet archipel qui n'a vraiment aucun intérêt.
Vous venez de dire carte postale. Et ça, c'est très important pour nous, parce que Mathieu Pot-Bonneville, qui est le directeur du département culture et création de Beaubourg, nous en envoie de temps en temps. Des fois, on les lit un peu plus tardivement dans l'émission. Mais là, vous me donnez l'occasion. Tiens, celle-là, je ne sais pas pourquoi, il y a des hamsters dessus. Qu'est-ce qu'on va lire de l'autre côté ?
Vous allez écrire un livre.
Un livre ? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Impossible, malgré mes efforts, d'identifier précisément l'auteur ou l'autrice de ce mot d'ordre qui traverse depuis 15 ans les mobilisations écologistes. Nous sommes la nature qui se défend. Pas étonnant qu'une telle formule décourage la recherche de signatures. En refusant d'isoler le « nous », en réinsérant la voix des militantes et des militants dans le grand bourdonnement du vivant, cette phrase prolonge la profonde mise en cause qui, aujourd'hui, ébranle de toutes parts le partage traditionnel entre sujet et monde, entre humain et non-humain. Si l'on y songe, elle remet aussi en cause cette division qui, depuis Aristote, oppose les productions de l'art au processus naturel, élève l'architecte au-dessus de l'abeille, n'accorde qu'aux humains le privilège de faire œuvre, en bref, ferme à double tour la porte de communication entre le musée des beaux-arts et celui d'histoire naturelle. Peut-être est-il temps de déverrouiller cette porte, de mélanger les collections. La théoricienne féministe Donna Haraway invitait un jour à faire bon accueil dans l'histoire des femmes aux souris de laboratoire dont le sacrifice aida à la recherche sur le cancer du sein. Dans le même esprit, je rêverais aujourd'hui d'une histoire élargie de la performance artistique. Et j'aimerais que l'on y fasse une place, aux côtés de Marina Abramovic ou des actionnistes viennois, aux 132 hamsters qui, le mardi 12 novembre 2024, ont entraîné l'immobilisation pendant 5 jours d'un Airbus A320 de la compagnie Air Portugal. Avion que leur évasion coordonnée a cloué au tarmac de l'aéroport des Açores. Échappés de leurs cages endommagées, les hamsters, dont on connaît la propension à ronger les câbles électriques et à se planquer dans les moindres interstices, les hamsters ont à la fois interdit le décollage de l'appareil et rendu pour presque une semaine la tâche difficile aux employés chargés de leur capture. S'il y a là, à mon sens, un événement dans l'histoire de l'esthétique, c'est que l'on y retrouve tous les critères de la performance artistique. Et d'abord, la mise en jeu directe des corps. Je veux dire l'éruption de cette multiplicité à la fois duveteuse et panique qui requalifiait entièrement l'espace et faisait surgir pour leur public un champ de possibilités neuves. Par exemple, il se pourrait qu'il en reste encore un là-dessous. De l'autre côté, on pouvait lire dans ce happening une réponse directe à une autre proposition artistique. Celle que réalisèrent en 2014 les artistes Alex Schweder et Walt Shelley. Intitulée In Orbit, cette œuvre entre architecture et performance consista pour ces auteurs à vivre, travailler et dormir 10 jours durant dans une roue de hamster géante, d'un diamètre de 7,50 m. Placés l'un dans la moitié inférieure de la roue, l'autre dans la moitié supérieure, les deux performeurs étaient contraints de coordonner en permanence leurs actions, tant chaque mouvement de l'un faisait tourner la structure et affectait la capacité de l'autre à accéder à son bureau, à son lit ou à sa cuisine. Nous sommes la nature qui se défend. Bruno Latour citait souvent cette formule. Le dernier ouvrage qu'il fit paraître de son vivant appelait à cartographier nos interdépendances et il s'intitulait « Où atterrir ?». Il me semble que sur ces deux points, les rongeurs qui refusent de décoller et les êtres humains qui se font hamster à leur tour pour mesurer l'impact de leurs actions sur leur habitat commun, tout ce petit monde porte à ne pas désespérer tout à fait de l'art. Peut-être est-ce cela que Karl Marx nommait la critique rongeuse des souris.
France Culture. Allons-y voir. Patrick Boucheron.
Une multiplicité duveteuse et panique. C'est tout nous. Grégory Quenet, on a entendu évidemment évoquer Bruno Latour. J'ai envie de vous poser une question sur la manière. Enfin, comment vous pensez l'histoire environnementale comme une histoire humaine, évidemment, des hommes dans leur milieu? Donc ce que vient de dire Mathieu Pot-Bonneville, on s'y retrouve comme historienne et historien.
Il a dit plusieurs choses très importantes. D'abord, ce qu'il appelle performativité, mais cette capacité d'action des non-humains, qui rompt avec l'idée que la nature ne serait qu'un tableau immobile à l'arrière-plan de l'histoire humaine et que les hommes seraient les seuls acteurs. C'est la première rupture de l'histoire environnementale. La deuxième chose, et qui rejoignait profondément ce que construisait Bruno Latour avec la théorie l'acteur-réseau, ce sont d'écrire des réseaux d'interdépendance. Et ces réseaux d'interdépendance, eh bien justement, on peut se demander de quelle manière les œuvres d'art nous permettent de les saisir ou pas. Est-ce qu'on doit utiliser l'œuvre d'art comme une archive située qui documente un moment précis, ou alors plutôt quelque chose que l'on va ouvrir pour faire une enquête? Et bien évidemment, je ne peux pas empêcher de penser à la truite de Courbet. En plus, en ce moment, il y a une polémique qui agite les réseaux en disant « faut-il choisir la truite ou le comté ?» Et bien évidemment, l'histoire environnementale nous a appris depuis les fameux livres sur le saumon de Californie que c'est une très mauvaise manière de formuler la question.
Alors la truite de Courbet, racontez-nous.
C'est un tableau où Courbet représente une truite à sa sortie, enfin lui-même Courbet, de prison après la Commune. Et avant de partir en Suisse, il va passer par Ornans et il peint cette truite qui vient à peine d'être pêchée. On voit le fil à pêche qui sort de sa bouche. Elle est en train d'agoniser. Donc on a beaucoup dit que c'était un autoportrait caché de Courbet agonisant. Mais elle est surtout d'un réalisme très brutal. On a vraiment juste le poisson qui est présenté comme ça en grand sur la toile. Et alors on a prêté dans le cadre de l'opération Centœuvre qui raconte le climat ce tableau au musée Courbet à Ornans, qui est donc le village natal de Courbet. Et c'est la rivière La Loue qui passe juste en dessous du musée. Et en fait, là, vous me demandiez tout à l'heure comment on avait sélectionné les projets. En fait, quand il y avait un rapport tellement fort avec le territoire et que le musée s'emparait du sujet pour justement faire intervenir tout un écosystème dont le musée fait partie. Et on a des biologistes qui viennent montrer leurs résultats de l'analyse de la loue au musée, des écologistes qui viennent parler, etc.
Luc Abadie, justement, dans les livres, hein, qui est écologue, et montre comment, bah, justement, aujourd'hui, ça fait la une des journaux locaux, hein, dans la loue, les truites sont
exactement
malades.
Les petites filles de cette truite,
voilà,
sont fait aujourd'hui
de la pollution,
en danger.
De la pollution et du changement climatique.
Tout à fait.
Marée par Mona 2016, oui, cette truite de Courbet 1876, hein, je crois, c'est ça, 73. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, Grégory Quenet ?
Ce déplacement en région est très beau, je trouve, parce que justement, en déplaçant l'œuvre, ça amène à demander est-ce qu'on peut s'en servir pour créer une instance, une scène qui va permettre de débattre de ces questions compliquées, puisque évidemment la disparition des truites aujourd'hui a un rapport avec l'augmentation très forte du nombre de vaches pour produire un comté qui a de la valeur très importante. Mais quand on regarde les études scientifiques, on est face à quelque chose, justement une cascade d'interdépendance, puisque ces rivières sont aussi polluées aujourd'hui par des pesticides qui ont été utilisés il y a 30 ans, mais qui étaient bloqués dans le sol et qui sont libérés parce que soudain on met des vaches dans des endroits où il n'y avait pas de vaches. On est dans un environnement qui sont des rivières karstiques, où une pollution arrive quasiment directement dans la source, alors que si on est dans un massif ancien, il faudrait attendre 40 ans. Il y a aussi des médicaments. Et donc, c'est une cascade de responsabilités. Et la question, c'est finalement, est-ce qu'on s'en sert de l'œuvre d'art pour diffracter ce réseau d'interdépendance, ou est-ce qu'on s'en sert pour illustrer de manière morale en ramassant dans une unité simpliste et homogène, finalement, une thèse qui serait la truite ou le comté.
Et puis,
bien évidemment, non. Ce n'est pas ce qu'il faut faire.
Oui, et puis il y a aussi une autre question, Servane Darnier de Vitry, c'est la question de savoir si les artistes ont été, à un moment donné, des précurseurs de la conscience écologique. Et ça, vous le traitez à partir justement de Théodore Rousseau, par exemple.
Oui, Théodore Rousseau, c'est un artiste un petit peu tiraillé entre le Louvre et Orsay. Pour le musée d'Orsay, c'est un de nos premiers artistes. Il inaugure 1848 et effectivement, à ce moment-là, en 1847 précisément, Théodore Rousseau part s'installer à Barbizon, en lisière de la forêt de Fontainebleau. Il va y rester toute sa vie. Alors, en faisant bien sûr des petits allers-retours à Paris pour des raisons commerciales. Et il va tellement s'inspirer de cette forêt qu'elle va devenir son seul sujet de tableau à partir de 1847, à tel point qu'il va écrire, scandalisé, au comte de Morny, ministre de l'Intérieur de Napoléon III, pour faire protéger la forêt de Fontainebleau, créer une réserve naturelle qui va s'appeler la réserve artistique en 1853, parce que sa demande, c'est qu'on arrête de couper ces chaînes, qu'on arrête de transformer ces paysages qui sont ces sujets de tableau.
Écoutez, c'est une archive ORTF, et oui, 1974, ça s'appelait les libérateurs de l'art, Théodore Rousseau.
Au mépris, à la sottise, répond la noblesse de l'homme qui peignit ce paysage de montagne. Sans cesse recalé aux salons officiels, ses amis le surnommaient le grand refusé. Il s'appelait Théodore Rousseau. Et Charles Baudelaire écrivait « Il m'a toujours ébloui ». Ce n'est pas dans son atelier qu'il aimait peindre. Il travailla sur le motif, solitaire, vouant son énergie à l'étude de la forêt dans laquelle il passait ses journées. De ses longues promenades, pendant lesquelles il écoute, comme il dit, la parole des arbres. Il rapporte des dessins, des aquarelles.
Si je parviens, par l'assimilation de l'air avec ce qui sait faire vivre, et de la lumière avec ce qu'elle fait éclore et mourir, à donner la vie générique à ce monde de la végétation, alors vous y entendrez les arbres gémir sous la brise, les oiseaux qui appellent leurs petits et crient après leur dispersion.
Il s'enchante des jeux de lumière dans le ciel et des reflets du ciel au miroir des étangs. Avant les impressionnistes, avant Claude Monet, il peindra le même paysage à des heures différentes de la journée pour étudier les variations de la couleur.
En 1872, dans Le Temps, George Sand publiait un essai sur les dangers de la déforestation, ça s'appelle La forêt de Fontainebleau, et ça vient d'être réédité chez un nouvel éditeur, édition de L'Éclaireur. Vous en signez la postface, Grégory Connet. Et ce qui est en jeu, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on entend effectivement ces notes joyeuses et paisibles, c'est pas la question de la nature, en fait c'est la question du monument, à préserver, mais du monument national.
Je ressens une lecture tout à fait étonnante qui amène à complexifier la notion de précurseur, parce qu'on pourrait penser qu'elle est dans les traces de Rousseau, qu'elle connaît, enfin qu'elle soutient. Mais elle a des arguments tout à fait différents. Elle dit ce qui est en jeu, ce sont effectivement les monuments de la nature. Mmh. Et elle condamne d'ailleurs, c'est assez étonnant, ce que font les communards en détruisant les monuments bâtis. Ce faisant, elle a une perspective de réconciliation qui passe par l'enfant, comme celui qui est le véritable socialiste, celui qui est véritablement en harmonie. Elle critique les artistes en disant surtout il ne faut pas privatiser la forêt de Fontainebleau pour les seuls artistes. Tout le monde, même l'épicier, dit-elle, va pouvoir accéder à la forêt de Fontainebleau. Et enfin, un dernier écart qui n'est pas le moindre, elle refuse de se lancer dans une figure nationale de la forêt, au moment même où la France et l'Allemagne se sont opposées autour des symboles nationaux, au moment où dans toute l'Europe, s'érigent des symboles nationaux puisés dans un répertoire naturel. Et elle voit plutôt ça comme un élément de réconciliation entre les peuples, par-delà les affrontements. Et donc, ça veut dire que le musée, enfin, les œuvres littéraires doivent nous servir à faire sortir les ambivalences et les tensions, justement. Beaucoup plus que quelque chose de stabilisé.
Pierre Saint-Gravelli.
Oui, cette expérience de Théodore Rousseau permet de renouveler un peu la généalogie du parc naturel, cette histoire du parc naturel qui est très liée à la construction des États-nations, vous l'avez dit. Et donc on a longtemps pensé, disons qu'on a pensé jusqu'à aujourd'hui que les premiers parcs naturels avaient été inventés notamment avec le Yosemite 1864 et le moment où Abraham Lincoln établit une législation fédérale. Il se trouve que on peut peut-être remonter même avant Théodore Rousseau et avant cette expérience française. C'est ce à quoi nous invitent les sinologues aujourd'hui, qui travaillent notamment sur la région de Bodkhan, qui est encore aujourd'hui un très grand parc naturel en Mongolie. Et il se trouve que cette région a été protégée par les chefs sur place depuis le XIIIe siècle pour des raisons religieuses, et qu'à partir du XVIIIe siècle, précisément à partir de 1783, Chinois, le gouverneur mongol sur place au service de l'empereur Qing Qianlong décide de le transformer en véritable zone de protection naturelle pour des raisons de beauté. Il s'agit là aussi de défendre un monument, au fond, un monument impérial.
Allez, on va reprendre la route des pôles. Vous revenez du Groenland, Pierre Saint-Gravelou, on va essayer de comprendre pourquoi. En attendant, du Groenland, qu'est-ce qu'on sait? Beaucoup de choses en ce moment, évidemment, mais aussi ce qu'en dit Borgen, la saison 4. Écoutez.
Salut, t'aurais une minute?
Je t'en prie, entre. Je m'attendais à ta visite.
Oui? Si je me souviens bien, on a fait du bon travail ensemble quand t'étais à la tête du gouvernement groenlandais et moi, première ministre. En fait, je doute que tu t'intéresses vraiment à ce que j'ai dit ou pas au sujet d'un certain homme d'affaires russe à la commission.
Oui, tu as raison, je m'en fous pas mal. Mais je ne crois pas que tu agisses pour le bien des Groenlandais.
Tu préférerais que vos enfants grandissent dans un monde où la banquise fond à vue d'œil et où la nourriture est de plus en plus rare à cause du réchauffement climatique?
Ces arguments ne servent qu'à me faire culpabiliser. Mais ça ne marchera pas, Birgit. Tu sais ce que c'est que le quotidien au Groenland? Tu sais ce que c'est de devoir choisir entre son identité et sa culture et la possibilité de faire des études? Toute notre administration a été construite par les Danois. Si on ne parle pas votre langue et si on ne s'aligne pas sur votre société et vos façons de faire, on n'a aucun espoir d'arriver à quoi que ce soit. Et maintenant qu'on a trouvé un trésor dans notre sous-sol qui pourrait nous permettre d'accéder à l'indépendance, vous venez nous dire qu'on n'a pas le droit de l'exploiter parce que ce serait préjudiciable pour l'environnement, alors que c'est vous qui l'avez détruit. Il faudrait que le Groenland paie pour la pollution générée par l'Occident depuis 200 ans. On en souffre déjà suffisamment.
Borgen, saison 4, épisode 3, Inuit Nunat, Terre du Peuple 2022, là, on y est. Pierre Saint-Gravelou, le Danemark, le Groenland. C'est une histoire qui revient aujourd'hui, mais c'est une histoire ancienne.
Oui, c'est une histoire ancienne, et cette série Borgen nous, nous permet d'appréhender une partie de cette histoire où on perçoit à la fois les enjeux géopolitiques actuels qui font que ce Groenland a été a intéressé très fortement les États-Unis qui ont essayé d'acquérir à presque 10 reprises ce territoire à partir de 1867. Et on l'a vu récemment, évidemment, cette année avec le gouvernement de Donald Trump. Il avait déjà essayé en 2019. Pour des raisons d'abord géopolitiques, parce qu'il se trouve que les États-Unis, au moment de la Seconde Guerre mondiale, s'aperçoivent que le Groenland est potentiellement la première ligne de défense, notamment antimissile, face à l'URSS puis à la Russie. Et donc ils installent de manière pérenne une grande base aérienne, puis d'ailleurs une base spatiale de surveillance spatiale à Thule, au nord-ouest de du Groenland. Et on a découvert entre-temps que le Groenland regorgeait de ressources naturelles en terres rares, en uranium. Donc ce territoire intéresse également aujourd'hui la Russie et la Chine.
Bon, mais vous êtes venu en paix, un homme de paix, hein, au Groenland, pour justement faire une exposition.
Oui, cette exposition a été inaugurée hier, précisément. J'étais au Groenland la semaine dernière pour l'accrochage de cette exposition qui traite des cartographies groenlandaises, et plus particulièrement de la cartographie inuit. Car il se trouve que cette cartographie inuit est un exemple assez exceptionnel d'œuvre sculptée sur bois. Alors, il se trouve que le musée national du Groenland, qui se trouve à Nuuk, accueille cette exposition et a récupéré, à travers un certain nombre de restitutions, des œuvres exceptionnelles qui étaient jusque-là conservées au musée national du Danemark à Copenhague, dont ces cartes dites d'Amasalik. C'est une région du sud-est du Groenland. Ce sont des cartes gravées sur du bois flotté.
Des cartes tactiles.
Ce sont des cartes tactiles. Alors, on a longtemps pensé qu'elles permettaient aux Inuits de pouvoir naviguer sur des kayaks. Kayak, c'est un mot inuit pour désigner les bateaux en peau, naviguer dans cette région, notamment pour identifier les zones de pêche, dans une nuit polaire qui dure plus de 4 mois, d'où l'intérêt évidemment de la carte tactile. On sait aujourd'hui que ce sont plutôt des cartes qui permettent de raconter des histoires, de raconter des aventures, des campagnes de pêche, etc. Mais il se trouve que ce sont des cartes extraordinaires au point où, lorsqu'elles ont été découvertes par l'explorateur Holm, il envoie en 1886 une copie à la Société de Géographie de Paris, et les savants français sont tellement étonnés de la précision de ces cartes qu'ils considèrent que ça ne peut pas être le produit de ces, je cite, sauvages esquimaux, esquimaux étant un terme très péjoratif, hein, parce que ça proviendrait du latin excommunié, ceux qui ne vont pas suivre la messe. Bon, donc c'est l'occasion pour nous de montrer, c'est le paradoxal, pour la première fois, ces cartes originales, puisque y compris à Nuque, elles étaient conservées précieusement dans les réserves, et ils font circuler uniquement dans le monde des copies. Et puis, dans un second temps, aussi de lorsque l'itinérance de cette exposition va se dérouler à partir du mois de septembre prochain, dans trois plus petits musées régionaux et municipaux du Groenland, l'occasion pour les communautés dites d'origine, notamment de la région d'Amasalik, de découvrir pour la première fois ces œuvres.
Alors, on va écouter plus qu'une chanson, une chanson de rap, un hymne, c'est Tupilak, on écoute, et puis vous allez nous expliquer pourquoi c'est important.
سبعتي عباد توتين وقش سبون على السوتين قشي سامي سيوا داما تو داعي عسونا سعسونا انا عسونا وقش سبون ونغين لك العثق قصر نغيلين يعطي تيس دامو قفي عنا نبا نفسي ما يوانا خسنا ندى المشي ستيلي صرنا تمتوني ايوني لامي كلالي سنيني اكيني زي كورسو تورسويت كلالي ونغابي سوتاي
عسونا. Qu'est-ce qu'on écoute ?
Alors, il se trouve qu'avec Fabrice Argonès, qui est le géographe co-commissaire de cette exposition, en nous rendant sur place, nous sommes aperçus que ce morceau de hip-hop inuit, dont l'auteur est Joseph Tarak Petrusen, qui a été créé et diffusé à partir de 2017, était l'hymne de la jeunesse groenlandaise, parce qu'en fait, il évoque tous les mots, et ils sont nombreux, dont souffre cette société, cette colonisation qui est dénoncée par Arak, colonisation danoise depuis le début du XVIIIe siècle. Et le clip de la chanson, je vous invite à aller le voir sur Internet. Eh bien, le clip se déroule devant
Tupilak,
la statue,
hein, ça s'appelle Tupilak.
Tupilak, et se déroule devant la statue magistrale de Hans Hegge II, qui est la grande figure du missionnaire colonisateur, hein, dans les années 1720 Groenland. Cette statue est juste en face du musée national du Groenland à Nuuk. Et donc, dans cette chanson, il dénonce au fond l'imposition de la langue danoise aux dépens des différentes langues inuites, la déscolarisation dont sont frappées la grande majorité des jeunes inuits, l'alcoolisme, la vie très chère, hein, puisque c'est une économie extravertie et qu'à part la pêche, il faut tout importer, et puis le taux de suicide qui est sans doute le plus élevé au monde. Donc, une chanson qui porte le nom de Tupilak et qui est très important pour nous, puisque il s'agit de l'esprit vengeur, d'un monstre vengeur qui est sculpté dans des défenses, des dents, des os d'animaux, de phoques, de rennes, et qui est animé à travers des chants par les chamans pour aller tuer un adversaire. Et c'est très important aussi pour l'histoire de l'art, parce que ce sont ces fameux Tupilak gravés sous de multiples formes qui peuplent les collections d'art inuit dans le monde entier.
Oui, et là on rejoint Grégory Connet, c'est quand même tout à fait passionnant ce que vous appeliez effectivement de vos voeux, cette nouvelle alliance au fond entre voilà, les partenaires humains et non humains, c'est-à-dire une histoire environnementale au large en somme.
Oui, on se rend compte en écoutant Pierre Saint-Garavello que ce n'est pas une histoire simplement d'extériorité qu'on regarderait de loin par la fenêtre du bâtiment. Mais finalement, c'est une histoire de socialisation, d'humain et non humain, d'attachement qui se font en cascade, superposées, et qu'il s'agit de décrire très finement en prenant un objet comme ceci, comme cette carte, pour suivre. Et ça, on peut le faire dans toutes les collections des musées. Oui. On peut le faire à travers même l'histoire des musées, du bâtiment. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs dans ce livre sur le Louvre. Et je crois que la leçon, c'est de dire, plutôt que de rêver d'une sorte de table rase pour recommencer à zéro, qui est quelque chose quand même qui hante l'histoire occidentale depuis le tremblement de terre de Lisbonne et puis la figure du volcan à la fin du XVIIIe siècle, eh bien on peut mettre en mouvement, interpréter autrement, tout en assumant les rapports de force, les ambivalences, les dégradations. Il n'y a aucune concession à faire. C'est souvent un argument, un reproche qui est donné, comment dire, par des milieux écologistes radicaux à l'art, d'où cette idée, c'est l'art ou la vie, c'est-à-dire l'art dépolitiserait, parce qu'il rendrait les choses belles, il rendrait sensibles, et finalement il éliderait tous les rapports de force et des asymétries. Mais pas du tout,
oui.
Pas du tout.
Ce que vous montrez dans l'écologie au musée, un après-midi au Louvre, c'est comment le bâtiment lui-même est entièrement occupé, finalement, par son extérieur environnemental. Et comment, ben, vous prenez par exemple l'exemple de l'air qui va se glisser entre le tableau et la vitre, par exemple, dans ce fameux tableau de Van Eyck que vous analysez dans ce livre.
L'idée du musée à laquelle on a cru pendant longtemps, c'est celle d'une coupure, d'une séparation entre l'extérieur et l'intérieur par ce geste qui auto-institue un lieu qui est entièrement autorégulé, en température, en air, en éclairage, etc. Mais en fait, quand on fait une enquête dans les archives, la documentation du Louvre comme je l'ai fait, on se rend compte que ce geste en réalité fait rentrer un extérieur dans un intérieur, posant tout un tas de problèmes quotidiens, jusqu'à effectivement des processus géochimiques d'altération qui sont entre une toile et puis une vitre qui est posée à un moment donné alors qu'il n'y en avait pas au départ. Et donc le musée est plein de non-humains, plein d'invisibilité. Et c'est pas pour dire que le musée serait écologique sans le savoir, c'est absolument pas ça, c'est pour dire, eh bien, ceci fait partie de son histoire, il peut s'en emparer et donc s'en servir comme un levier de transformation pour faire les gestes qu'il doit faire pour devenir plus écologique, bien évidemment.
100 œuvres qui racontent le climat, c'est le titre du projet Servan d'Arnie de Vitry. Mais il s'agit pas simplement de raconter, au fond. Il s'agit pas seulement d'archiver un état du monde ou de documenter ou de témoigner. Il s'agit d'agir. Et au fond, c'est ça, comme vous le dites, le livre n'est une partie du projet. Le projet, c'est de faire circuler les collections et de produire des effets avec cette circulation.
Oui, de produire des effets. Comme vous le disiez, Grégory Quesnay, le musée fait partie en fait de l'écosystème, de tout ça. Et en fait, nous, ce dont on se rend compte, c'est que nos œuvres, elles sont aussi vulnérables à tous les changements du climat qu'on connaît. En particulier, vous parliez d'air, il y a des musées qui ferment pour cause de moisissures sur des œuvres dont on ne connaît pas encore bien les causes, mais dont on voit bien que c'est des collections qui sont extrêmement sensibles aux changements de température. Nous, on est toujours en train de faire très très attention à l'hygrométrie dans nos salles. Et en réalité, un monde qui serait trop trop chaud, ce serait aussi la disparition de ces collections, la disparition pure et simple. Hein, c'est des œuvres qu'on ne peut pas récupérer aussi. Donc le geste des écologistes, je trouve qu'il a aussi son sens de ce point de vue-là. Mais effectivement, ce projet et le fait de parler d'écologie au musée, c'est évidemment un moyen pour nous d'agir, mais c'est quelque chose qui ne s'arrête pas là, évidemment.
Pierre Singer.
Oui, on peut penser que les choses sont en train de changer assez rapidement, parce qu'autrefois, on pouvait organiser une exposition sur la fonte des glaces dans un musée qui, potentiellement, y contribuait très fortement. Aujourd'hui, on se pose la question. Et donc, il y a... je pense un chemin pour abandonner des pratiques de greenwashing au profit de bonnes pratiques. Alors on assiste vraiment à une effervescence, un foisonnement de une grande inventivité dans ce domaine. Moi je pense notamment à quelques expositions ou expérimentations de référence, notamment l'expérience Goya, une exposition au Palais des Beaux-Arts de Lille où une des premières fois en France, eh bien, plus de 70% de la scénographie a été réutilisée dans les expositions temporaires suivantes. Donc, il y a cette idée d'éco-conception qui devient maintenant quasiment obligatoire dans tous les musées. Et puis aussi l'idée de limiter les emprunts. Je veux dire, auparavant, on systématisait l'usage de l'avion pour le transport des œuvres. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, bon, on va plutôt valoriser les collections du musée, les collections aussi des musées voisins. Donc, ça crée aussi, dans cette nouvelle éthique relationnelle, de nouveaux liens, de nouveaux nouveaux partenariats avec les musées proches, avec les institutions proches. Et c'est, comme vous le disiez, en fait, c'est ça qui est essentiel, produire de nouvelles, induire de nouvelles relations.
Grégory Quenet.
Il veut dire qu'on identifie des potentialités qui sont à l'intérieur du musée, qu'on va faire surgir, et quitte même à inverser les choses, parce qu'on peut dire que les musées ont été en retard par rapport à la question écologique, ils se sont opérés très très tardivement, et d'une certaine manière, paradoxalement, ils peuvent aujourd'hui être en avance, pour une raison très simple, c'est qu'une œuvre d'art n'a pas de prix. Une œuvre d'art ne peut pas rentrer dans le système assurantiel. Vous ne pouvez pas dire... l'inondation où le feu a détruit la Joconde, eh bien, on vous donne 200 millions d'euros et vous êtes d'accord, content.
Et c'est pour ça, d'ailleurs, je le note, Servan, que bah, vous dites, oui, ça a un sens, le geste des activistes écologistes. Au moins, il nous amène à aller voir ces tableaux et en quoi, effectivement, leur environnement est signifiant. Je voudrais qu'on termine peut-être cette émission par... Un dernier, de manière un peu arbitraire, mais il y en a beaucoup de ces œuvres qui changent notre regard en fait sur le climat. C'est ce tableau de finnois de Axel Galen Kallela qui s'appelle Le Grand Pic Noir, 1894. Le Grand Pic Noir, ben, c'est un oiseau qui pique de son bec un bois mort sur un paysage. Là encore, et en fait, c'est en le faisant voir, là encore, à des écologues, à des climatologues, ils vous ont montré quelque chose qu'on ne savait pas. On se disait, ah bah tiens, tout en haut, c'est noir parce que c'est de l'ombre, mais non, c'est pas de l'ombre.
C'était lors d'un dialogue avec Gilles Clément, paysagiste, qui m'expliquait que, en fait, effectivement, le grand pic noir avec sa crête de feu, et là, parce qu'il se nourrit des insectes qui vivent dans le bois mort, donc déjà c'est du bois passif, il est mort mais il est plein de vie. Et en fait, l'arbre derrière, il est ce qu'on appelle en descente de cime, c'est-à-dire que pendant les périodes de sécheresse, la sève ne monte pas jusqu'en haut de l'arbre, et du coup l'arbre meurt par la cime. Et c'est vrai que c'est une manière pour le connaisseur du vivant d'attirer l'œil de l'historien de l'art sur quelque chose qu'il n'avait pas forcément compris.
Pierre Saint-Caravelou.
Alors c'était un tableau que j'avais retenu dans les Monts d'Orsay. J'avais proposé une lecture plus classique, plus politique, disons, au moment de la construction des identités nationales. Il s'agissait sans doute aussi pour l'artiste de consacrer la nature en inscrivant la faune et la flore dans le nouveau patrimoine national finlandais.
Grégory Quenet, vous avez encore, j'imagine, une autre lecture.
C'est la question de la référentialité. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit utiliser l'œuvre d'art pour documenter un moment historique,
ou l'archive d'un état du monde,
ou alors pour pour produire une sorte de réenchantement par la capacité à réinterpréter sans cesse. Et Lévi-Strauss avait, cette distinction très 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 belle en disant il y a deux rapports à la nature, un rapport qui est de possessivité, qui est sans limite, on veut tenir encore plus, et un rapport qui est plus symbolique, de sens, et qui décuple, et bien évidemment qui amène à desserrer la main. Et je crois que c'est exactement ça, quand on voit ce tableau, et bien commence un chemin qui amène à desserrer notre prise, et qui donne envie de voir et de revoir ce tableau. Il n'y a rien de plus écologique. Ce qui est aussi une manière de critiquer quelque chose qui est simplement l'image, puisque là, on voit des œuvres dans un moment particulier, ensemble, ici sur ce plateau.
On les voit.
C'est ça, l'œuvre.
Oui, c'est ça. On les voit à nouveau, on les voit de nouveau, et grâce à des regards différents. Encore une fois, c'est intéressant dans le livre Servan Dagny-de-Vitry, comment les climatologues nous permettent là aussi d'orienter notre regard. Et puis, peut-être, vous l'avez compris, les historiennes, les historiens de l'environnement, du monde, avec Pierre Saint-Caravelou, ont envie aussi de poursuivre avec vous, sans doute, ce décloisonnement des regards.
Oui, et le fait qu'on voit ces œuvres aussi dans des contextes très 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 variés à travers toute la France permet aussi de les contextualiser autrement. Et par exemple, quand on voit les déchargeurs de charbon de Monet à côté d'un panier à charbon conservé à Saint-Cyr-sur-Morin, là, on refait d'autres liens encore.
Unwillingly and so from there.
on termine comme on avait commencé, par le sublime Klaus Nomi, Cold Song, 1986. C'était Allons-y voir. Merci à vous trois, Servan Dargny de Vitry, Grégory Quenet, Pierre Saint-Garavelou. Les références de vos livres, de vos parutions sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Sophie-Catherine Gallet, Anouk Minaudier et Lilou Maupetit. À la prise de son, Mineta Diawara. À la réalisation, Laurence Millet. Merci à vous toutes et tous.